France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Deux ministres à Béthune cet après-midi dans le Pas-de-Calais, Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher. Elles ont rendez-vous avec les élus locaux. Elles échangeront ensuite avec les représentants du personnel de Bridgestone. L'usine va fermer ses portes l'année prochaine. La décision de la direction a pris tout le monde de court. Les 863 salariés espèrent que le gouvernement pèsera de tout son poids pour échafauder d'autres solutions. À Béthune, dans le Pas-de-Calais, c'est un reportage de Maxime Debs.
Tout faire pour éviter ça, la fermeture qui serait une catastrophe. Francky, 28 ans chez Bridgestone, attend plus que de la compassion de la part du gouvernement.
Qui tape du poing sur la table et qui sauve notre emploi. Moi, je vais avoir 50 ans et faire autre chose par la suite, ça va être difficile. Moi, tout ce que je veux, c'est rester ici.
Aujourd'hui, c'est avec une pensée pour ces ouvriers dans l'angoisse de perdre leur job qu'Agnès Pannier-Runacher se rend à Béthune, dit-elle, la ministre déléguée à l'industrie qui, comme eux, a été choquée par la façon de faire.
Ce qui est inadmissible sur le sujet de Bridgestone, c'est de ne pas avoir finalement ouvert la discussion en amont de cette annonce brutale. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les organisations syndicales ont signé un accord de méthode vendredi qui d'abord donne 5 mois à la discussion et qui réouvre des scénarios alternatifs à la fermeture de l'usine.
Par cet accord de méthode, la direction semble être en train de s'organiser dans un processus de négociation, veut croire la ministre. Mais si tel n'était pas le cas, il faudra bien aller au bras de fer, ne pas hésiter pour Jean-Luc Rugbuche de la CGT.
Il y a un moment, si on peut faire pression sur Bridgestone, il ne faut pas se gêner, quoi. Ils ont eu des subventions, hein. Ils ont eu 1,8 million de subventions de CICE, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, hein. Et c'est bon.
La direction européenne de Bridgestone qui participera à la réunion de cet après-midi par visioconférence en présence des élus du territoire.
Dans une lettre ouverte adressée à la présidente de la Commission européenne, les professionnels du voyage via leurs associations qui représentent plus de 5000 entreprises demandent un protocole de test standard pour le Covid-19 et la fin des mesures de quarantaine qui dissuadent les Européens de voyager. Les auteurs de cette lettre affirment que plus de 27 millions d'emplois sont aujourd'hui menacés sur le vieux continent. Des moyens plus conséquents pour un métier plus attractif, c'est la double ambition de la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. Le texte est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans un contexte évidemment de crise sanitaire où l'on voit bien l'importance qu'il faut aujourd'hui donner à ce secteur. Le gouvernement annonce 25 milliards d'euros supplémentaires pour les 10 prochaines années, avec entre autres des statuts améliorés pour les plus jeunes, sauf que le projet de l'exécutif est loin de susciter l'enthousiasme des professionnels. Anaïs Lefebvre-Berthelot est maîtresse de conférences à l'université Rennes 2, membre également du collectif Fac et Labo en lutte. Elle est au micro d'Hakim Kasmi. Elle dénonce avant tout le manque de postes de chercheurs en France.
Si les jeunes chercheurs et chercheuses partent à l'étranger, c'est pas de gaieté de cœur, parce que souvent ils partent dans des pays où là aussi ils vont avoir des statuts précaires, mais c'est vrai, ils seront mieux payés. Pourquoi ? Parce que quand on est précaire dans l'enseignement supérieur en France, on est souvent vacataire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est payé 26 centimes en dessous du taux horaire du SMIC. Ça veut dire qu'on signe un contrat de travail souvent des mois après avoir recommencé à enseigner. Ça veut dire qu'on est payé une ou deux fois par an et que souvent il faut aller réclamer d'ailleurs sa paye aux ressources humaines. Voilà, c'est pas parce que les postes en France ne sont pas attractifs que les gens partent. C'est parce qu'il n'y a pas assez de postes.
Comme toujours, Donald Trump veut aller vite, très vite, trop vite peut-être. Il promet de nommer très rapidement une femme très compétente pour remplacer à la Cour suprême la doyenne des magistrats, la juge démocrate Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi à l'âge de 87 ans. Pour Joe Biden, au contraire, cette nomination doit avoir lieu après la présidentielle. Joe Biden qui exhorte les sénateurs républicains à prendre leur distance sur ce dossier avec l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Gregory Phillips nous appelle de Washington.
Il y a 53 sénateurs républicains pour 47 démocrates. Une fois que Donald Trump aura révélé le nom de sa candidate pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, ce sera plutôt une femme, a précisé le président. Ce sont eux, les sénateurs, qui devront l'auditionner puis ensuite valider par un vote sa nomination à vie à la Cour suprême. La pression est énorme sur les épaules des sénateurs républicains, car comme pour leurs collègues démocrates, leurs sièges sont aussi remis en jeu le 3 novembre et le choix qu'ils vont faire aura des conséquences sur leur propre mandat, selon qu'ils auront facilité ou non le basculement complet de cette Cour suprême dans le camp conservateur. Pour l'instant, une seule sénatrice républicaine, Lisa Murkowski, élue en Alaska, traditionnellement très anti-Trump, a dit qu'elle s'opposerait à cette nomination car trop proche de l'élection. Sa collègue du Maine, Susan Collins, déclare aussi que le Sénat ne devrait pas faire cela, mais elle n'a pas tranché. Le patron de la majorité républicaine, Mitch McConnell, va donc toute cette semaine tout faire pour rassembler ses troupes. Si 4 sénateurs républicains font faux bond, alors le pari de Trump sera perdu. Mais pour la nomination du juge Brett Kavanaugh il y a 2 ans, et il était controversé, eh bien le camp républicain tout entier avait finalement voté sa nomination.
Un temps calme et ensoleillé sur le nord et l'est de la France, le ciel sera variable sur la façade atlantique et beaucoup plus instable sur le sud avec des averses et des orages. Les températures iront cet après-midi de 20 à 28 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré qu'on retrouve demain dès 7h. Bonne journée.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.